Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dimanche dernier, je vous ai donné un sermon de Mgr Lefebvre, très beau sermon qui se terminait en insistant sur l'importance de la messe dans la vie chrétienne. On pourrait se dire que un tel sermon remue le fer dans la plaie, puisque aujourd'hui il est difficile d'avoir la messe, de l'avoir, disons, dans la fidélité, parce que l'Église s'est toujours opposée à ce que, sous prétexte de messe, on entre en communion avec toutes sortes de ralliés, d'excommuniés, de schismatiques et autres. Et il faut bien se rappeler que les modernistes sont excommuniés, ipso facto, c'est-à-dire automatiquement, par Saint Pie X. Ce qui faisait dire à Mgr Lefebvre, je suis excommunié par des excommuniés, c'est vous dire si cela ne me trouble pas. Et c'est parce que les ralliés de tout poil, et maintenant la fraternité Saint Pie X, se font amis des excommuniés et surtout se mettent sous leur autorité, que nous avons été obligés de prendre nos distances et que nous conseillons aux fidèles de prendre également leurs distances. Je vous disais donc, Mgr Lefebvre insiste sur l'importance de la messe, lui qui conseillait aux chrétiens de nombreux pays qui n'avaient pas la messe de la fidélité, de s'en abstenir pour l'avoir une fois de temps en temps. À l'époque, il n'était pas question de messe de Saint Pie V ou de messe de Paul VI. Ce problème était déjà dépassé. C'était juste après l'indulte de 1984. La question lui était posée par l'abbé Émilie, supérieur de district du Canada. Que doivent faire les fidèles qui ont une messe de l'indulte, c'est-à-dire une messe sous l'autorité des modernistes, qui n'ont pas à proximité de messe fidèle, à l'époque c'était la fraternité Saint Pie X, que doivent-ils faire? Et Mgr Lefebvre disait qu'ils aillent à la messe une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, si vraiment la distance est trop grande et qu'ils ne peuvent pas se déplacer chaque semaine. Encore une fois, il s'agissait des bonnes messes qui avaient pour seul vice, mais c'est très important, d'être sous l'autorité des évêques modernistes. Si je vous ai donné ce sermon, bien sûr, cela remue le fer dans la plaie, mais, c'est l'occasion de mieux comprendre que la messe nous met au pied de la croix, et c'est l'occasion de mieux comprendre le mystère de la croix dans la vie chrétienne. C'est un très grand mystère. Il est bien possible qu'il n'ait pas été aussi étudié qu'il le mérite. Mgr Lefebvre nous en a parlé beaucoup. Il nous parlait certainement autant de la croix que de la messe, peut-être même plus de la croix que de la messe. En tout cas, la messe, c'était toujours par rapport à la croix. Pour bien vous faire comprendre les choses, mes bien chers frères, je voudrais méditer avec vous une méditation qui est en réalité une contemplation de Saint Ignace qu'il appelle les deux étendards. Je pense que cette méditation, contemplation, est une bonne manière d'entrer dans le sujet, parce que si je vous plaque trop vite la doctrine de la croix dans la vie chrétienne, on risque de ne pas comprendre pourquoi, d'accepter sans comprendre et donc de mal en vivre. Saint Ignace fait le tableau d'une lutte grandiose qui est la lutte entre l'Église et Satan, entre l'Église et la contre-Église, entre Jésus-Christ d'un côté avec tous les disciples qu'il envoie à la conquête du monde, Satan de l'autre côté qui lui aussi envoie des millions et des millions de complices à la conquête du monde, pour lui Satan. Alors, il est important de voir que Satan a suffisamment de complices pour les envoyer partout. Comment s'y prend-il ? Il commence par leur donner l'amour des biens matériels. Saint Ignace dit les richesses, mais depuis, Satan a fait des progrès et il offre des richesses à deux sous. Les richesses vont donner la vanité. Elles vont obscurcir l'esprit et faire vivre l'esprit dans la vanité. De la vanité, on passe à l'orgueil de l'homme qui ne doit rien à Dieu, pratiquement. Et de là, dit Saint Ignace, Satan fait tomber dans tous les vices. À l'opposé, notre Seigneur attire tous les hommes tout d'abord à la pauvreté. Pauvreté réelle, celle des religieux, pauvreté d'esprit, celle des chrétiens qui, tout en ayant des richesses, savent vivre comme n'en ayant pas. De l'amour des richesses, il attire à l'amour des opprobres. Qu'est-ce que les opprobres ? Et ça, c'est très important. La probité, c'est l'honneur, l'honnêteté. Un homme probe est un homme auquel on peut faire confiance, parce que c'est un homme d'honneur. L'opprobre, c'est le contraire. Lorsque, dans une famille, un enfant s'est très mal conduit publiquement, cela jette l'opprobre sur cette famille. Dans quel sens Saint Ignace nous dit-il que Jésus-Christ nous demande l'amour des opprobres ? Il est évident que Jésus-Christ ne peut pas nous demander l'amour du déshonneur. Ce n'est pas possible. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour le monde et pour nous, le critère de l'honneur n'est pas le même. Et le monde nous jette à la figure comme un opprobre, ce qui pour nous est une probité. C'est ainsi que le monde va accuser les bons chrétiens d'être coincés, d'être figés sur leurs idées, de tenir trop aux principes, que sais-je encore. Toutes choses qui sont un opprobre aux yeux du monde, parce que cela fait mal voir aux yeux du monde, qui ne veut que la liberté, et la liberté c'est l'orgueil, la liberté c'est l'indépendance, l'indépendance c'est l'orgueil. La chose que le monde cultive avant tout, c'est la liberté. Pourquoi ? Parce que la vraie liberté est le bien de la volonté, et si la volonté veut plus que ce qu'elle doit avoir, elle cherche, c'est de l'orgueil, et elle cherche à faire ce qu'elle veut, ce qui est une fausse liberté, évidemment, pas la vraie, mais c'est comme ça qu'elle l'appelle. En réalité, c'est de l'indépendance ou de la révolte. En tout cas, c'est de l'orgueil. Donc, notre Seigneur nous attire à l'amour des opprobres, c'est-à-dire que nous devons être fiers de porter l'opprobre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a subi l'opprobre des Juifs et du monde, surtout des Juifs, qui se faisaient complices du démon, puisque notre Seigneur, dans l'Évangile, dit « Votre Père, c'est le diable ». il a subi l'opprobre des Juifs parce que il était un Messie, enfin il était le Messie, mais pas comme les Juifs l'attendaient. Les Juifs attendaient un Messie qui flatte leur orgueil, qui flatte l'orgueil de leur race ou de leur nation, que sais-je. Et le Messie Jésus-Christ, par son humilité, n'était évidemment pas celui qu'ils espéraient. Je parle des mauvais Juifs, bien sûr. Ça n'était pas le cas de la Sainte Vierge, ni de Saint Joseph, ni des apôtres. Notre Seigneur a subi l'opprobre, et cette opprobre va monter jusqu'à un paroxysme, et c'est la raison de la croix, de la crucifixion. Si notre Seigneur a tellement été haï par les Juifs, c'est parce que son mode de vie est à l'opposé du mode de vie du monde. Les richesses, les biens matériels, une vie agréable ici-bas, et comme je vous le disais, on fuit la vanité. Dieu sait si on peut reprocher au monde la vanité, et si notre Seigneur l'a reproché au monde à son époque. Et puis surtout, l'humilité qui est une soumission totale à Dieu, et Dieu sait si notre Seigneur a été humble pour racheter l'orgueil des hommes. Ces deux manières de vivre, celle de Jésus-Christ et celle du monde, étaient absolument incompatibles. Et lorsque nous ne sommes pas dangereux pour le monde, celui-ci se contente de jeter sur nous l'opprobre, mais dès qu'il voit en nous un peu de résistance et un petit peu de danger, et cela vient très vite, alors il ne le supporte plus, et il faut absolument qu'il élimine celui qui est un reproche vivant. C'est la raison de l'excommunication de Mgr Lefebvre, qui est une mise à mort spirituelle. Lorsque le monde ne peut pas mettre à mort physiquement, il veut au moins la mise à mort spirituelle. Et d'ailleurs, pour lui, la mise à mort spirituelle est encore plus importante que la mise à mort corporelle. La corporelle n'a d'intérêt que parce qu'elle jette le discrédit. Mais le discrédit est vraiment ce qui est le plus important aux yeux du monde. Les Juifs vont jeter le discrédit sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'accusent de... Nous avons vu cela dans un évangile de ce carême, enfin du carême. Ils l'accusent d'agir par Belzéboub, le prince des démons. Ils vont jeter le discrédit parce que notre Seigneur serait supposé ne pas observer la loi, alors qu'il l'observe, mais il met la loi de la charité au-dessus des prescriptions positives. Les Juifs vont tout essayer. Lorsqu'il vient dans sa patrie, les Juifs vont même essayer de le précipiter du haut d'une falaise. Notre Seigneur, ce n'était pas le moment encore de la passion, notre Seigneur calmement passe au milieu d'eux et ne leur permet pas de le toucher. Nous sommes pris, mes bien chers frères, dans le même opprobre du monde contre Jésus-Christ. Et plus nous sommes semblables à Jésus-Christ, plus l'opprobre du monde tombera sur nous, ce qui est un très bon signe. Et moins l'opprobre du monde tombe sur nous, plus cela signifie que le monde ne voit pas en nous d'autre Christ. Saint Ignace nous dit que nous devons donc avoir l'amour des opprobres. Il ne s'agit évidemment pas de chercher l'opprobre pour chercher l'opprobre, il ne s'agit pas de faire le fou pour qu'on se moque de nous. Enfin, quelques saints l'ont fait, mais c'est rarissime, et puis ça n'est raisonnable que dans des cas tout à fait particuliers, parce que de toute façon, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. La simple vie chrétienne est objet d'opprobre par nature aux yeux du monde. Dieu sait si notre Seigneur a parlé du monde dans la prière, la grande prière le soir du Jeudi Saint, qui est son testament, on peut dire. Et elle dit, il prie son père, il dit à son père, « Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du monde. » Et il dit aux apôtres, « Le monde m'a haï et il vous haïra, comme il m'a haï moi-même. » L'amour des opprobres nous met sur les pas de notre Seigneur, nous rend fiers de notre Seigneur, et donc nous met sur les pas de la passion et du calvaire. C'est là où je voulais en venir. La vie chrétienne, pourquoi la vie chrétienne nécessairement aboutit-elle à la croix? Parce que entre le monde et Dieu, il faut qu'il y ait un mort. Le monde essaye de mettre Dieu à mort, et évidemment, il n'y arrivera pas, et c'est Dieu qui aura la victoire. En attendant, il faut absolument cette mort, il faut absolument le sang du testament, dit saint Paul. Il n'y a pas de testament sans la mort du testataire. Il faut donc le sang du testament, comme il y a eu le sang de l'ancienne alliance. Le sang qui a été répandu, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui a été répandu pour nous en rémission des péchés. Le carême nous rappelle cela. Le carême nous rappelle que dans le monde, nous ne pouvons pas être les amis du monde, que nous sommes nécessairement les ennemis du monde, ou plus exactement, que nécessairement le monde est notre ennemi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que nous sommes les ennemis aux yeux du monde, le monde ne veut pas de nous, et que nous devons l'accepter, et non seulement l'accepter, mais que nous devons de bon cœur entrer dans cette voie crucifiante et de bon cœur suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Cette voie, le bon Dieu, Jésus-Christ, a eu la bonté dans sa providence de nous la faciliter par le saint sacrifice de la messe qui vient prolonger le sacrifice de la croix, le rendre présent à nous, et qui fait que nous n'allons pas suivre notre Seigneur simplement par la pensée, mais que la messe va produire en nous, puisqu'elle est un sacrement, je vous l'ai dit déjà, comme tout sacrement, elle produit en nous cette fierté des opprobres. Elle, comme la grâce, comme le baptême, tout cela, nous donne la fierté de l'opprobre. Et en ce quatrième dimanche de carême, nous approchons de la passion. Nous n'y sommes pas encore, donc nous verrons au dimanche de la passion à parler un peu plus encore du mystère de la croix dans la vie chrétienne. Mais déjà, nous avons cette montée et j'espère vous avoir fait bien comprendre déjà un des points, parce qu'il y en a d'autres, un des points de l'importance de la croix et de la passion dans notre vie chrétienne. Demandez à la Sainte Vierge de vous y aider, c'est toute la raison d'être de la consécration à la Très Sainte Vierge. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est le grand apôtre de la croix, il a écrit une lettre aux amis de la croix, parce que pour lui, tout chrétien est un ami de la croix, et pour engager les bons chrétiens à être de véritables amis de la croix, il leur a écrit ce livre merveilleux, « L'amour de la sagesse éternelle », car la croix, c'est la sagesse de Dieu, saint Paul le dit, « Sagesse de Dieu, folie aux yeux du monde ». Folie de Dieu, sagesse aux yeux du monde. Ou plutôt, sagesse du monde, folie aux yeux de Dieu. L'amour de la sagesse éternelle, qui est un amour de la croix, et pour faciliter encore l'amour de la croix et de la sagesse éternelle, la consécration à la Très Sainte Vierge. C'est vraiment ce que nous devons souhaiter, chercher, pour le temps après après la Pentecôte, vraiment nous consacrer totalement à la Sainte Vierge, mais pour l'instant, dans le temps avant la Passion, comprenons bien l'importance de la croix dans la vie chrétienne. Et nous allons terminer par le signe de la croix qui résume ces vérités essentielles. Tout d'abord la Trinité, l'incarnation, et bien sûr, puisque c'est le signe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous traçons sur nous parce que nous sommes marqués de la croix de notre Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.